Dans cette première version, Gandalf relate longuement comment, après son séjour en comté, il revint chez Thorin et le persuada de laisser de côté ses grandes ambitions et de partir secrètement et de prendre Bilbo avec lui. Et dans la dernière version, on n'en dit pas plus.
Je finis par me décider et je revins chez Thorin. Je l'ai trouvé en grand conclave avec des parents à lui. Il y avait là Balin et Gloin et d'autres encore.
« Eh bien, qu'avez-vous à nous dire ?»
me demanda Thorin dès que j'entrai. « Ceci tout d'abord, » répondis-je. « Vos propres idées sont celles d'un roi, Thorin l'écu de chêne, mais votre royaume n'est plus. S'il y a espoir de le rétablir un jour, ce dont je doute, il vous faut commencer petitement. Ici, loin de tout danger, je me demande si vous vous rendez vraiment compte de la puissance d'un grand dragon. Mais ce n'est pas tout. Une ombre envahit rapidement le monde, une ombre plus terrible, et ils s'entraideront tous deux. Et ils n'auraient pas manqué de le faire si je n'avais pas attaqué Dol Guldur au même moment. Une guerre ouverte serait totalement inutile, et d'ailleurs, il vous serait impossible de la mettre sur pied. Il va vous falloir tenter quelque chose de plus simple, mais de plus audacieux. Quelque chose de quasi désespéré, en fait.
« Vous êtes à la fois vague et inquiétant, » dit Thorin. « Parlez plus clairement. »«
Eh bien d'abord, » dis-je, « cette expédition, vous devrez l'entreprendre vous-même. Et il vous faudra procéder secrètement. Pas de messagers, de héros ou de duel pour vous, Thorin l'écu de chêne. Tout au plus, emmènerez-vous quelques parents ou fidèles serviteurs. Mais il vous faudra quelque chose d'autre. » Quelque chose d'inattendu.
Dites toujours, s'écria Thorin.
Un instant, répondis-je. Vous espérez en finir avec ce dragon, et non seulement est-il très puissant, mais il est désormais vieux et très rusé. Dès le début de votre entreprise, il faudra tenir compte de ceci, sa mémoire et son odorat.
Naturellement, dit Thorin. Les nains ont souvent été confrontés aux dragons, plus que tout autre peuple, et vous ne faites pas la leçon à un ignorant.
« Très bien, » répondis-je, « mais votre plan, m'a-t-il semblé, ne s'en préoccupait guère. Le mien est une démarche subreptice, clandestine. Smaug ne repose pas sur sa couche somptueuse sans faire de rêve, Thorin l'écu de chêne. Il rêve de nains. Vous pouvez être sûr qu'il explore sa demeure jour après jour et nuit après nuit pour s'assurer qu'il n'y a pas la moindre bouffée de nains dans les parages, et il le fait chaque fois qu'il s'apprête à dormir. Dormir d'un demi-sommeil, l'oreille tendue, guettant les bruits de pas. Des pas de nains.
Vu ainsi, votre clandestinité paraît tout aussi difficile et hasardeuse qu'une attaque de front, dit Balin. « Difficile au point d'être impossible. »«
Oui, c'est difficile, » répondis-je, « mais pas difficile au point d'être impossible, ou je ne perdrai pas mon temps ici. »« Je dirais difficile au point d'être absurde. »« Aussi, vous suggérerais-je une solution tout aussi absurde. »« Prenez un hobbit avec vous. »« Smaug n'a probablement jamais entendu parler des hobbits, et il n'en a certainement jamais senti un. »
« Quoi ? » s'écria Gloin. « Un de ces nigauds du comté ? Quelle utilité lui voyez-vous, ou plutôt, lui sentez-vous ? Il peut bien avoir l'odeur qu'il veut, il n'oserait même pas s'approcher assez près d'un dragonneau tout frais éclos pour qu'on la sente, son odeur.
« Allons, allons, » dis-je. « Voilà qui est tout à fait injuste. Vous ne savez pas grand-chose des gens du comté, Gloin. J'imagine... que vous les croyez simplets parce qu'ils sont généreux et qu'ils ne marchandent pas, et que vous les croyez timorés parce que vous ne leur vendez jamais d'armes. Vous faites erreur. Qu'importe, il y en a un qui me semble un bon compagnon pour vous, Thorin. Il est adroit et intelligent, bien que rusé, et loin d'être imprudent. Et je crois qu'il a du courage, beaucoup de courage, je suppose, selon les coutumes de son peuple. Ils sont, peut-on dire, brave au besoin. Il faut mettre les hobbits en mauvaise posture pour se rendre compte de ce qu'ils valent. « C'est une expérience qui ne se peut faire, » répondit Thorin, « car pour ce que j'ai pu en voir, ils font tout pour éviter les mauvaises postures. »« En effet, » dis-je, « c'est un peuple très raisonnable. Mais ce hobbit-là est un peu différent des autres. » Je crois qu'on pourrait le persuader de se mettre en mauvaise posture. Je pense que dans son cœur, il désire vraiment vivre, comme il dirait, une aventure.
« Pas à mes frais !» dit Thorin. Il se leva et arpenta la pièce furieux. « Ce ne sont pas des conseils, ce que vous me dites là, mais des sottises. Je ne vois pas ce qu'un hobbit, bon ou mauvais, pourrait faire qui vaudrait l'entretien qu'il me coûterait pour une seule journée. » Quand bien même on pourrait le convaincre de se mettre en route.
Vous ne voyez pas, en tout cas, vous n'entendriez pas, répondis-je. Les hobbits se déplacent sans effort, plus silencieusement qu'aucun nain ne le pourrait, même si sa vie en dépendait. Ils ont, je crois bien, la démarche la plus légère de tous les peuples mortels. Cela du moins, vous ne semblez pas l'avoir remarqué, Thorin l'écu de chêne, quand vous avez foulé les routes du comté en faisant un vacarme, disons-le, que les habitants pouvaient entendre à 1 mille à la ronde. Quand je parlais de clandestinité, j'étais sérieux. Une clandestinité experte.
« Une clandestinité experte ?» s'écria Balin,
reprenant mes mots en leur donnant un sens assez différent de ce que j'entendais. « Vous voulez dire un chercheur de trésors spécialement exercé ? On en trouve encore ?» J'hésitais. Cela prenait nouvelle tournure, et je ne savais pas trop quoi en faire.
« Je pense bien, » répondis-je enfin. « Si vous y mettez le prix, ces gens vont là où vous n'osez aller, ou du moins ne pouvez aller, et s'emparent de ce que vous désirez. »
Les yeux de Thorin s'allumèrent au souvenir des trésors perdus.
« Un voleur patenté, vous voulez dire ?» lâcha-t-il néanmoins d'un ton dédaigneux. « On pourrait envisager la chose, si la récompense n'était pas trop élevée. Mais en quoi tout cela concerne-t-il ces villageois? Ils boivent dans des pots de terre et ne savent pas la différence entre une pierre précieuse et une perle de verre. »
« Je voudrais bien que vous ne parliez pas toujours avec tant d'assurance de ce que vous ne connaissez pas, » répondis-je sévèrement. « Ces villageois ont vécu en comté quelque 1400 ans. » Et ils ont appris beaucoup de choses durant ce temps. Ils ont été en rapport avec les elfes et avec les nains 1 millier d'années avant que Smaug ne vienne à Erebor. Aucun d'entre eux n'est riche au sens où vos ancêtres l'entendaient, mais vous trouverez dans certaines de leurs demeures de plus belles choses que vous n'en avez ici, Thorin. Le hobbit auquel je pense possède des joyaux en or et mange avec des couverts en argent et boit du vin dans du cristal ciselé.
« Ah, je vois enfin où vous voulez en venir, » dit Balin. « C'est un voleur, alors, et c'est pourquoi vous nous le recommandez. »
Là-dessus, je crois que je perdis patience et prudence. Les nains ont l'orgueilleuse conviction que personne d'autre ne peut posséder ou fabriquer une chose de valeur et que toutes les belles choses se trouvant en d'autres mains ont dû être obtenues des nains à un moment donné, sinon volées. Et cette suffisance était plus que je n'en pouvais supporter sur le moment.
« Un voleur !» dis-je en riant. « Mais oui, un expert cambrioleur, c'est cela. Comment donc un hobbit se trouverait-il autrement en possession d'une cuillère d'argent? Je mettrai la marque du voleur sur sa porte, ainsi vous la trouverez. »
Et de fureur, je me levai, et je dis avec une chaleur dont je fus moi-même surpris, « Vous devrez chercher cette porte, Thorin l'écu de chêne. Je parle sérieusement. » Et soudain, je sentis que j'étais en effet aussi sérieux que possible. Cette curieuse idée que j'avais eue n'était pas une blague. C'était la bonne. Il importait au plus haut point qu'elle soit menée à bien. Il fallait que les nains rabattent de leur superbe.
Écoutez-moi bien, peuple de Durin, m'écriai-je. Si vous persuadez ce hobbit de venir avec vous, vous réussirez. Sinon, vous échouerez. Et si vous vous refusez même à tenter la chose, alors j'en ai fini avec vous. et n'attendez de moi ni conseil ni secours jusqu'à ce que l'ombre s'abatte sur vous. » Thorin se tourna et me regarda avec étonnement, non sans raison.
« De grands mots, » dit-il. « Très bien, je viendrai. Vous devez avoir la prescience de quelque chose, à moins que vous ne soyez tout simplement devenu fou. »«
Bon, » dis-je, « mais vous devez venir de plein gré, et non seulement dans l'espoir de démontrer que je suis un sot. Vous devez vous montrer patient et ne pas vous laisser facilement décourager, si ni la bravoure ni le désir d'aventure dont je vous parle n'apparaissent au premier abord. Il les niera, il essayera de reculer, mais vous devez l'en empêcher.
« Il ne lui servira à rien de marchander, si c'est ce que vous voulez dire, » dit Thorin. « Je lui offrirai une bonne récompense pour tout ce qu'il récupérera, et rien de plus. »
Ce n'était pas ce que je voulais dire, mais il semblait inutile d'insister. « Il y a encore une chose, » repris-je. « Vous devez faire tous vos plans et préparatifs à l'avance. Il faut que tout soit fin prêt. Une fois convaincu, il ne doit pas avoir le temps d'y penser à deux fois. Vous devrez quitter le comté sur le champ et partir tout droit vers l'est, à la conquête du trésor.
« Il a l'air d'une bien étrange créature, votre voleur, » dit un jeune nain appelé Fili, le neveu de Thorin, comme je devais l'apprendre par la suite. « Quel est son nom, ou le nom qu'il utilise ?»«
Les hobbits utilisent leur vrai nom, et il n'en a qu'un, Bilbo Bessac. »
« En voilà un nom !» dit-il, et il se mit à rire.
« Bilbo trouve son nom parfaitement respectable, » dis-je, « et il lui convient, car c'est un célibataire d'âge mûr et qui se fait un peu gras et avachi. Actuellement, il pense surtout à la nourriture. Il a toujours un garde-manger bien garni, me suis-je laissé dire, et peut-être plus d'un. En tout cas, vous ferez bonne chère. »
« Ça suffit !» s'écria Thorin. « Si je n'avais pas donné ma parole à présent, je ne viendrais pas. Je ne suis nullement d'humeur à ce qu'on se moque de moi, car je suis sérieux, moi aussi, du plus grand sérieux, et mon cœur se consume en moi. »
Je ne fis pas attention à cela.
« Écoutez, Thorin, dis-je, voici avril bien avancé, et le printemps est là. Prenez vos dispositions au plus vite. J'ai affaire, mais je serai de retour dans une semaine. Lorsque je reviendrai, si tout est prêt, je chevaucherai en avant pour préparer le terrain. Alors nous lui rendrons visite tous ensemble le jour suivant. »
Et là-dessus, je pris congé, ne souhaitant pas donner à Thorin plus de chances de se dédire que Bilbo n'en aurait. Le reste de l'histoire vous est bien connu, du point de vue de Bilbo. Si j'en avais écrit le récit, cela aurait été plutôt différent. Il ne savait pas tout ce qui se passait. Le soin, par exemple, que j'ai pris pour que l'arrivée d'un important groupe de nains à Bello, à l'écart de la grande route et loin de leur parcours habituel, ne parvienne pas trop rapidement à ses oreilles. C'était un mardi, le 25 avril 2941, que je rendis visite à Bilbo et, bien que sachant plus ou moins à quoi m'attendre, je dois dire que ma confiance fut ébranlée. Je vis que les choses seraient beaucoup plus difficiles que je ne l'avais cru. Mais je m'obstinais. Le jour suivant, mercredi 26 avril, j'amenai Thorin et ses compagnons à cul-de-sac, péniblement en ce qui concerne Thorin, car il renâcla jusqu'au dernier moment. Et bien entendu, Bilbo était complètement stupéfait, et il se comporta de manière ridicule. En fait, tout alla au plus mal pour moi dès le début, et cette regrettable histoire d'expert cambrioleur que les nains s'étaient mise solidement dans la tête ne fit qu'aggraver les choses. Je fus soulagé d'avoir dit à Thorin que nous aurions à passer la nuit à cul-de-sac, puisqu'il nous fallait du temps pour discuter des mesures à prendre. Cela me donna une dernière chance. Si Thorin avait quitté cul-de-sac sans que je puisse le voir seul, mon plan aurait échoué.
On verra que certains éléments de cette conversation se retrouvent dans la version plus tardive, incluse dans la discussion entre Gandalf et Thorin à cul-de-sac. À partir de là, le récit de la dernière version suit de près la première, et nous n'en citerons plus rien ici, hors un passage de la fin. Dans la première version, lorsque Gandalf cesse de parler, Frodo note que Gimli se mit à rire.
« Cela paraît toujours aussi absurde, » dit-il, « même maintenant que tout est bien fini. Je connaissais Thorin, évidemment, et j'aurais bien voulu être là, mais à l'époque de votre première visite chez nous, j'étais ailleurs, et on ne m'autorisa pas à participer à l'expédition. « Trop jeune, » dirent-ils, « bien qu'à 62 ans, je me croyais capable de tout. Eh bien, je suis content d'avoir entendu toute l'histoire, si c'est bien toute l'histoire. J'ai idée que même à présent, vous ne nous dites pas tout ce que vous savez. »
« Bien sûr que non, » dit Gandalf.
Et après cela, Meriadoc interroge davantage Gandalf à propos de la carte et de la clé de Thrain. Et au cours de sa réponse, dont l'essentiel figure dans la dernière version à un autre point du récit, Gandalf dit
« Cela faisait 9 ans que Thrain avait quitté son peuple, et lorsque je le trouvais, il gisait au fond des culs de basse fosse de Dol Guldur depuis au moins 5 ans. Je ne sais comment il a pu tenir aussi longtemps, ni comment il est parvenu à dissimuler ses objets à travers tout ce qu'il a enduré. Je pense que le pouvoir sombre ne voulait rien de lui sinon l'anneau, et le lui ayant dérobé, se désintéressa de ce prisonnier rompu par les tourments, se contentant de le jeter aux oubliettes, le laissant là à son délire, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un léger oubli, mais qui devait se révéler fatal. C'est souvent le cas des légers oublis.